Vous écoutez
RMC. La une des grandes gueules du sport.
C'est parti pour cette finale de la Coupe de France. Florian Thauvin envoie tout de suite le ballon dans la moitié de terrain niçoise pour mettre la pression. Et la première frappe de cette rencontre. Oh, c'était la reprise de volée de Jean-Michel Larquet en 75.
Sans la qualité technique. Non, il était persuadé que Gallou allait toucher le ballon, donc il n'a pas préparé son geste.
Thauvin dans la zone de la frappe de Thauvin. Et on l'attendait, Florian Thauvin. Et il est là. Il reste 3 minutes. C'est parti. Ce deuxième poteau, la tête.
Il a pas été dangereux. Cette fois-ci, le saut. N'est-ce pas, Jean-Louis. Thauvin, buteur, Thauvin, passeur.
Pour l'instant, c'est l'homme du match. Alors, le corner pour Jonathan Clauss. Pied droit, c'est parti pour Clauss. La dérivation, premier poteau, le but contre son camp. L'OGC Nice qui revient. Coupe de France peut-être pour le Racing Club de Lens. 3-1. C'est fini. La Coupe de France 2026 est au Racing Club de Lens. C'est Lensois ont écrit l'histoire de leur club, puisque pour la première fois, Lens remporte la Coupe de France. C'est la conclusion d'une saison formidable pour les hommes de Pierre Sage.
Eh oui, bah c'est le tube du week-end là, effectivement, avec Lens, vainqueur de la Coupe de France, Jean-Louis Tour, Jean Baumel et Jean-Michel Larquet au commentaire sur RMC. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que j'écoute Jean-Michel Larquet au commentaire, ça me redonne des frissons. Hein, c'est Madeleine de Proust, ça me rappelle l'enfance, évidemment, d'écouter Jean-Michel. La Coupe de France sans et hors ce matin pour la première fois en 109 éditions. Lens, pour la saison de ses 120 ans, s'est imposé 3-1 face à Nice en finale au Stade de France, au plus grand bonheur des 60 000 spectateurs lensois présents hier soir. Les buteurs Thauvin, Edouard et Sima, épilogue magnifique d'une saison impressionnante des hommes de Pierre Sage après leur place de dauphin du PSG en Ligue 1. Les GG, je vous pose la question ce matin. Attention, les mots ont un sens.
Oui.
Comme d'habitude. La saison de Lens est-elle un exploit? Mario Bartoli.
Oui.
Jérôme Pinault.
Non.
Alizé Cornet.
Oui.
Simon Dutin.
Oui.
Nous avons donc trois oui et un non. Celui de Jérôme Pinault, supporter lensois. On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp, évidemment, même si vous n'avez pas dormi, surtout si vous n'avez pas dormi. Lui n'a pas dormi également, c'est Kevin Morand, notre envoyé spécial de la RMC à Bollard toute la nuit. Salut Kevin.
Salut Georges, salut GG.
Et oui, parce
salut
que les joueurs sont revenus très tard avec la coupe hier. Raconte-nous la fête sans heure, Kevin.
Oui, alors déjà après l'explosion de joie au coup de sifflet final au stade Bollard, les 38 000 supporters restés à Lens pour suivre le match sur l'écran géant n'avaient qu'une envie, c'était fêter ça le plus longtemps possible. Écoutez.
Formidable, incroyable, on n'en revient pas, c'était émouvant. Là, c'est la première et il faut pas l'oublier, il faut surtout fêter ça
jusqu'à tout le week-end.
Très heureuse, très émue, on était très contents de partager ce moment, la convivialité, la ferveur.
On va juste pleurer parce que voilà, on l'a gagné.
Oh, c'est magnifique, c'est le plus beau rêve de ma vie.
On peut voir la coupe.
Et elle est arrivée à Bollard, cette coupe à 4h du matin, en quart avec les joueurs qui ont présenté donc cette première Coupe de France de l'histoire du club devant 15 à 20 000 spectateurs. Plus d'une demi-heure de fête, le gardien Robin Rissert a couru vers les virages avec cette coupe. L'attaquant Florian Thauvin, les yeux rougis, et l'entraîneur Pierre Sage notamment sont montés sur le promontoire avec les leaders des Ultras Lensois.
Je suis très ému, très très content de célébrer ça avec le public. Ils étaient nombreux au Stade de France, ils étaient nombreux à Bollard. Ils nous ont attendus jusqu'à 4h du matin. Ils sont fantastiques. On les remercie pour ça. On a vécu une saison magnifique. Maintenant, c'est écrit dans l'histoire, donc tellement fier.
C'est le plus grand des honneurs, en fin de compte, parce que rendre les gens heureux, c'est une des missions qui nous incombe. Et ce soir, on a relevé le défi, donc tant mieux.
Alors on y est là, dans la nuit lensoise. On le ressent dans ses réactions. Il y a eu, Kevin, une vraie communion entre l'équipe et le public encore cette nuit. Hein.
Oui, à l'image de cette chenille lancée sur les coups de 4h30, non seulement en tribune mais aussi sur la pelouse avec les joueurs, le staff et même le président Ogourlian. La coupe a été transmise aux supporters, quelques-uns ont donc pu l'avoir dans leurs mains. Certains étaient aussi un peu plus tôt au Stade de France, ils ont fait la route comme les joueurs pour être à Bollard pour ce retour des héros. Écoutez.
On est obligé là, on a fait le match, maintenant on fait avec eux. Oh,
fabuleux moment, extraordinaire, il fallait faire tout le parcours, il le mérite.
C'était magnifique, cette soirée elle est incroyable et je pense que ça restera gravé dans la mémoire de Lens.
On ne peut pas décrire ça, la ferveur, et très fier.
Et donc les corons ont été chantés a cappella par le public en pleine nuit artésienne. La fête continuera aujourd'hui avec une parade dans le centre de Lens à partir de 15h et une réception à l'hôtel de ville autour de 16h30.
Ah, la fête n'est pas prête de s'arrêter effectivement. Merci Kevin, bonne nuit, bonjour, je ne sais pas quoi te dire. En tout cas, merci d'avoir veillé pour faire vivre ce matin aux auditeurs et auditrices d'RMC cette fête interminable des Lensois. La saison de Lens est-elle un exploit? Tiens Marion, on va commencer par toi. Tu dis oui, toi, plutôt.
Oui, absolument. Alors, bien évidemment que Lens est un club historique, mais malgré ça, ils ont 120 ans d'existence et ils n'avaient qu'un trophée. Ils ont un palmarès extrêmement limité. Avant le trophée d'hier soir, ils n'ont été champions de France qu'à une seule reprise en 98. Et c'est la première fois qu'ils remportent cette Coupe de France. Donc déjà, pour le nombre de titres accumulés en 120 ans et le fait qu'ils en obtiennent un hier, c'est absolument historique. Je pense pas dans la mémoire collectif qu'on se souviendra forcément de leur deuxième place en 2023 ou leur deuxième place en 2026.
Mais les trophées.
Exactement. Mais les lignes de palmarès et les trophées dans la vitrine, c'est ça qui reste. Et franchement, pour moi, hier, d'avoir obtenu ce trophée, d'avoir cette ligne de palmarès, alors qu'en plus, il y a bien évidemment l'ogre parisien avec un budget qui n'a absolument rien à voir, parce qu'il faut quand même se rendre compte que Lens est le 11e budget de Ligue 1. Lens a la moitié du budget de Nice. La moitié. On parle de 60 millions contre 120 millions pour Nice. Donc faire avec, entre guillemets, aussi peu, je mets beaucoup de guillemets parce que ça reste des sommes importantes, mais au vu du foot, c'est peu. Arriver à faire une saison pareille, arriver à avoir un collectif pareil. On a entendu Pierre Sage, le travail effectué par Pierre Sage a été absolument monumental. Et puis surtout, la constance. Mais pour moi, cette ligne de palmarès, au vu de ce que le club a obtenu en 120 ans d'existence, oui, c'est ça que je trouve exceptionnel. Et de le banaliser, ça serait quasiment leur faire offense. Donc oui, bien sûr, c'est un réel exploit. Et surtout qu'ils arrivent à le faire, alors qu'il y a Paris qui archidomine, qui a quasiment un milliard de budget. Donc pour tout ça, j'argumenterai sur le reste ensuite. Mais pour moi, oui, bien évidemment, ça reste un moment exceptionnel.
L'exploit pour la dimension historique et pour les moyens par rapport à d'autres, effectivement, t'es pas d'accord, Jérôme, toi? C'est le terme exploit qui te dérange?
Oui, voilà, c'est juste ça. Moi, je suis admiratif du parcours. Quand on suit le Racing Club de Lens de très près et qu'on voit comment travaille Jean-Louis Lec avec Pierre Sage, avec le recrutement aussi, qui a été très très bon, le recrutement avec des Thauvin, on a été chercher des Sars, Saint-Maximin. Qui voulait être Saint-Maximin? Personne. Ils ont réussi à le faire venir pour un homme qui s'appelle Jean-Louis Lec. C'est ça la bonne histoire, la belle histoire de cette équipe cette année. Après, pour moi, l'exploit, c'est de battre le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France ou de gagner le titre.
Mais ils n'ont jamais gagné.
Oui,
quand
tu n'as
jamais gagné un trophée, c'est par définition un exploit.
Historique.
Mais non, ils ont déjà fini deuxième en 2023.
Oui, mais l'exploit, c'est de battre plus fort que toi. Et ils l'ont pas fait.
Ils étaient dans la compétition. Non, mais ça, c'est la même chose que
mais
de dire.
Mais ils l'ont pas fait en
non, mais Jérôme, c'est exactement.
Direct,
mais oui, mais c'est comme si tu me dis. Si tu me dis à Serena dans un tableau de Grand Chelem et tu gagnes Grand Chelem, mais tu l'as pas battu en confrontation directe. Mais je suis désolé, t'es dans le tableau. Donc c'est exactement la même chose.
Oui, mais sauf que tu n'as pas battu l'imbattable.
Tu as battu l'imbattable.
Tu as pas battu le Paris Saint-Germain.
Tu as battu toutes les équipes qui étaient présentées devant toi.
Attention, je ne minimise pas la performance du RC Lens. Je dis juste que pour moi,
ils l'ont jamais gagné.
On les attendait pas forcément là. Donc ça reste un exploit quand même.
Ah, tu ne les attends pas. Encore une fois, non, le budget, quand tu vois comment est géré le budget de l'OGC Nice, qui est l'actionnaire, tu es qu'à peine étonné qu'ils soient en finale de la Coupe de France. Ce qui est surprenant, c'est de les voir en Ligue 2. Mais quand le budget est mal utilisé, tu peux aussi faire.
Je rappelle que
notre club de cœur est le deuxième budget de Ligue 1. On n'est pas du tout à la base.
C'est plus trop
une logique, cette question de budget.
Non, mais c'est même pas ça. Quand on regarde les saisons passées et les classements du RC Lens, ils sont quand même plutôt en train d'évoluer entre la 8e, 7e place.
Ah, ils sont fait quand même deuxième l'année
dernière. Deuxième en 2023. Ils ont passé 5 saisons en Ligue 2. Et c'était extrêmement récent. Donc, c'est un club qui, au départ, avec le budget qu'ils ont, le recrutement qu'ils ont fait, ont surperformé. Et pour tout ça, oui, ça reste un exploit.
Mariette sur WhatsApp, fidèle auditrice, me dit, Lens, c'est un exploit. Si on prend cette équipe sur plusieurs saisons, oui, c'est un exploit. Mais si on ne prend que cette saison, non. Lens a tout simplement été dans une progression maîtrisée.
C'est la deuxième meilleure équipe de France.
Ils ont montré, Simon.
Oui, enfin, progression maîtrisée, on les a pas mis sur un tapis roulant pour qu'ils aillent chercher des trophées. La progression, il faut la
créer. En fait, ils ont changé la moitié de l'effectif à l'intersaison, de coach également.
Et tu perds des cadres, des gens qui étaient importants dans les bons résultats déjà du RC Lens les dernières saisons. Samba, Danso, Kusano, Frankowski, Medina, tout ça dans le désordre et pas forcément au même moment. C'est un club qui nous a habitués à faire beaucoup avec moins, avec peu de moyens. Voilà.
Mais ça travaille bien.
Voilà, ça te presse des litres de jus avec deux, trois oranges seulement. Et en plus, on a changé les oranges. Et il y en a moins que les saisons précédentes, que les récoltes précédentes. Belle puisque le budget a été, on a été obligé de réduire la voilure. Marion soulignait qu'ils sont vraiment à mi-championnat au niveau de, du volume budget. Du budget. Il y avait le pari Pierre Sage qui a pris. Et là où je rejoins Jérôme, c'est que tu sais, il y avait un slogan dans les années 80 qu'on entendait, qu'on avait entendu quand on était enfant. On n'a pas de pétrole en France, mais on a des idées. Tu vois,
à l'ancienne, ouais, c'est vrai, ça marche.
Il n'y a pas de pétrole, mais il y a des idées. Mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu si les paris Thauvin et Saint-Maximin
n'avaient pas fonctionné?
On aurait dit, mais c'est catastrophique, c'est des mecs, ces gars-là, ils sont cramés pour le foot de haut niveau, ils sont allés à l'étranger, ils ont plus envie, ils sont plus, c'est pas des joueurs capables de se fondre dans un collectif.
Mais Lens, c'était un club qui marche comme ça aussi, sur des coups.
C'est magnifique.
Thauvin
et Saint-Maximin, ça cristallise quand même tout ce qu'on reproche parfois aux footballeurs de haut niveau, c'est-à-dire le talent, mais pas l'investissement. Et voilà. Et pour revenir sur le côté exploit, alors certes, il y a des clubs qui ont fait le doublé dans les années récente, mais des clubs qui terminent à la fois deuxième de Ligue 1 et qui remportent la Coupe de France, ça n'arrive jamais. Non, mais Auxerre l'a fait en 2003, je crois, sauf erreur de ma part, mais le PSG gagne 70% du temps la Coupe de France. Donc quand tu t'accroches pour être le meilleur des équipes hors PSG et remporter la Coupe de France, c'est tu énorme. Fais forcément une saison exceptionnelle.
Moi, ce que je trouve intéressant, on peut en parler à Lisée sur cette équipe lensoise, on a parlé des moyens, on a parlé de l'histoire, mais il y a aussi les joueurs qui ne sont pas forcément programmés pour ça. En début de saison, c'est-à-dire que t'es pas programmé pour être une équipe championne, pour gagner un trophée. Quand tu arrives à surperformer, non mais mentalement, quand t'es un sportif de haut niveau, faut pas minimiser ce que quand t'arrives à avoir une saison comme ça.
Et il faut pas minimiser non plus la continuité du travail qui a été effectué. Alors peut-être que le mot exploit, il est un peu fort pour toi,
c'est
Jérôme.
Pour ça, c'est juste le mot. Hein. Moi, je suis
quand même une sacrée performance.
Bien sûr, c'est exceptionnel.
Comme tu l'as dit, Georges, de la part des joueurs.
Exploit, non.
Qui exactement sont peut-être pas forcément destinés à cette saison-là. Ils finissent quand même deuxième du championnat. Ils gagnent le plus grand trophée de leur club. Le mot exploit, il est quand même pas si loin, moi, je trouve, dans la terminologie.
C'est historique.
Oui, c'est historique, clairement. Et quand on voit la ferveur qui s'ensuit, on sent que ça, on sait pas si ça va se reproduire d'ici peu. En tout cas, ça s'est pas produit sur les 120 dernières années, comme l'a dit Marion. Mais cette continuité dans le travail pour arriver à un accomplissement tel, pour moi, c'est quand même, de la très, très grande performance. Voire de l'exploit pour un club qui n'est pas forcément
il y a des valeurs aussi dans ce club. La preuve, hier, la passation avec Gourlian et Gervais Martel était sur la pelouse.
Le président historique.
C'est un club qui, selon moi, a tout compris. C'est un club qui a effectivement pas les plus gros moyens, mais il y a une structure direction sportive, il y a une structure recrutement, il y a du passé, il y a
c'est l'exemple
un
à suivre.
De... Pour moi, c'est un. Il y a beaucoup de clubs qui peuvent s'en inspirer.
Mais tu sais, tu parlais de pas gagner en battant les meilleurs, entre guillemets, qui est un grand débat. Effectivement, est-ce que ça a plus de valeur ou moins de valeur de gagner la même coupe, mais en ne battant pas les meilleurs?
Pour moi, oui.
Est-ce que tu te rappelleras, dans 20 ans, si on te dit... Jérôme, tu te rappelles en 2026, quand Lens a gagné la Coupe de France, tu sais qui avait battu le PSG? Je pense pas qu'on s'en souviendra. Tu te diras, non, mais Lens a gagné. On se souviendra pas que c'est Paris FC qui a éliminé le Paris AG, en fait. Tu te souviens du vainqueur, tu te souviens de celui qui soulève la coupe
saison,
à la fin.
La saison, elle est magnifique, et je dis pas le contraire. Je te dis que ils font deuxième du championnat. C'est la deuxième meilleure équipe de France sur le papier. Le Paris Saint-Germain, grand favori, qui est éliminé prématurément de cette compétition, ça en fait de Lens le deuxième. L'ogre, derrière, tout le monde ne voulait pas.
Marseille pouvait la gagner. Il y a plein d'équipes qui pouvaient la gagner.
Gagner Marseille, mais honnêtement.
Non, mais tu vois, mais c'est là où justement ça représente
l'exploit. C'est là pour moi où ça représente l'exploit. Bah, tu vois, une finale de Coupe de France où tu gagnes devant l'ultra favori, c'est l'exploit. L'autre partie, c'est historique, c'est phénoménal, c'est sensationnel parce qu'ils ont fait un parcours incroyable en battant tout le monde et ils ont été battre Lyon chez eux. Ils ont fait des grands matchs.
Ça méritera un autre débat. Est-ce que c'est plus dur de gagner quand t'es archi favori?
Ouais.
Ou de gagner quand t'as rien
ça
à perdre.
Quand tu es archi favori, Marion. Ça dépend comment tu es archi favori.
Mais c'était archi favori. On a fait le débat hier dans le SMS. Ils étaient archi favoris hier contre Nice.
Contre Nice, oui.
Bien sûr.
On en continuera à parler dans quelques instants. Oui, on peut en parler justement sur les statuts, la faculté justement à réussir à performer quand t'es pas forcément attendu. Est-ce que Lens, avec sa saison, a réussi un exploit à supporter Lensois? On vous attend au 32-16. Là, vous êtes nombreux à nous appeler et on va vous prendre dans un instant dans la grande gueule du sport. À tout de suite sur RMC. Tiens, j'ai un message de Romain sur WhatsApp. 06 12 424 424. Ce club de Lens, il me fait rêver. L'unité des joueurs, les valeurs, la ferveur, le respect des supporters. Il est magnifique à tous les niveaux, ce club. Et encore plus quand il gagne. En tant que supporter de l'OM, on ne vit pas ce genre d'émotion, on va dire Romain sur WhatsApp au 32-16. On vous attend, supporters lensois. Tiens, Grégoire nous appelle de Tourcoing ce matin. Salut Grégoire.
Salut les GG.
Salut Grégoire. Comment, la nuit a été courte,
félicitations.
Il n'y a pas eu de nuit.
Ouais. Bah écoutez, moi c'est un peu particulier parce que mon frère se marie aujourd'hui, donc j'ai malheureusement pas pu assister à la fête. Ah, malheureusement, ça reste le mariage de mon frère quand même.
Hein, bah, il met un maillot sans et or et une cravate et il va se marier. Hein.
C'est ça. Donc hier, j'avais le cœur déchiré parce que j'ai ma section bus magique qui est partie sans moi. Et voilà, qui est partie représenter la région, le nord dans Paris. Ils ont même dans le cortège croisé Yohann Lachor, je sais pas si ça vous parle.
Qui
nous a donné la victoire en 98. Non, franchement, admiratif de cette équipe, mais un coup pas parce que en début de saison, moi j'y croyais pas en pire ça, je vous le dis en toute honnêteté.
Ah ouais.
Et il m'a fait. Moi je sors du premier match Lens Lyon où on perd 1-0 et je me dis ça va être le même cinéma qu'avec Will Steele, je vous le dis en toute honnêteté. Hein. Et franchement, il m'a fait taire très clairement.
C'est un exploit pour toi, ce que vous avez accompli là avec votre coach, avec un effectif changé à moitié cette saison.
Mais pour moi, c'est clairement un exploit. C'est un exploit pourquoi ? Parce qu'il y a eu plusieurs paris dans cette équipe. On a un Robin Risser, c'est sa première saison en Ligue 1. Vous imaginez ?
Ah oui.
Il finit dans les 20, dans les 26 des Bleus. On a Florian Thauvin, on a un Lassem Maximin, que des paris en fait qui ont été faits dans cette équipe. Un Mamadou Sangaré qui finit avec le trophée Marc Bienfoy. C'est que des paris réussis et un travail de fond qui est fantastique. Et franchement, comme disait Joseph Ougourlian, on a bouffé de la merde pendant des années. Et là, cette année, je peux vous dire, là, cette saison, on savoure. Bravo, bravo à tous. On est dauphin du PSG. On gagne la Coupe de France. Je pense qu'on est la plus belle équipe de Ligue 1 cette année. Alors, il y a le PSG, bien sûr, hein, qui est dans une autre, sur une autre planète.
Ouais, bien sûr.
Mais franchement, quelle fierté.
Ben non, mais là, vous avez gagné la médaille du kiff, hein. Je pense, cette année, les supporters lensois avec tout ce que vous avez vécu. C'est évident. Thierry Grégoire parlait, je te remercie de nous avoir appelé au 32-16 de Pierre Sage, qui n'y croyait pas forcément, en début de saison. On rappelle, il arrivait après son expérience lyonnaise, notamment, où il avait, d'ailleurs été débarqué, alors que ça marchait plutôt bien pour lui. Simon, c'est vrai, il faut rendre hommage aussi à Pierre Sage. Quand on parle de dimension d'exploit, ce que Pierre Sage arrive à accomplir, c'est un exploit d'arriver avec un nouvel effectif.
C'est un exploit, d'autant plus que il y a peut-être un petit creux générationnel au niveau des entraîneurs français, qu'on attend cette nouvelle génération, cette jeune génération, je dirais entre guillemets, et on a tendance à vouloir parfois mettre la charrue avant les bœufs. Pierre Sage, il s'est fait remarquer en étant l'adjoint d'Habib Bey au Red Star. En national, si je dis pas de bêtises, et il est arrivé au réolé, tu sais, de cette espèce de réputation de les petits génies du foot français, quoi. Et effectivement, parachuté dans son club de cœur, je le dis d'autant plus honnêtement que j'ai mis certaines réserves malgré certains résultats encourageants au début de son expérience lyonnaise. Voilà, faut toujours faire attention avec des entraîneurs qui n'ont pas encore accompli des choses. Et c'est à mettre à son crédit, au crédit de la direction lensoise, d'avoir tenté le pari Pierre Sage, parce que, toute proportion gardée, Will Steele, c'était un petit peu le même profil d'entraîneur. Il sortait d'une expérience réussie à Reims, un club encore un petit peu plus sous-dimensionné par rapport à Lens. Et voilà, crédit à la direction lensoise d'avoir tenté ce pari alors que tu aurais pu, aller chercher quelqu'un de plus expérimenté pour te remettre de l'expérience Will Steele. Et encore une fois, avec un matériau brut qui, sur le papier, est pas dingue, on l'a rappelé, le budget.
Oui, mais c'est la tactique, paris. Pierre Sage. Ah ben c'est oui. Vraiment la tactique, et donc, disciple de Guardiola.
Et donc Pierre Sage a fait manger son chapeau à tous ceux Exactement. Qui doutaient de lui, parmi lesquels je m'inclus. Et c'est d'autant plus méritoire.
Ouais, les anciens sportifs de haut niveau, il y a des coachs qui vous font surperformer. Il y a des coachs qui vous rentrent dans la tête, qui arrivent à débloquer quelque chose et à vous faire à atteindre un niveau au-delà des 100%, des 110%, je sais pas, Alizé.
C'est aussi une question d'alchimie. Ça veut dire qu'il y a des très très bons entraîneurs qui vont être hyper efficaces et performants avec certains types d'athlètes. Et puis, il y a d'autres athlètes avec qui ça a peut-être un peu moins fonctionné. C'est aussi normal. Là, je pense que au sein du club de Lens, il y a une certaine alchimie qui s'est créée aussi. Et c'est pour ça que les résultats sont arrivés. Alors, les très 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 grands entraîneurs, c'est ceux qui arrivent à s'adapter en fonction du public qu'ils ont. Voilà, c'est vraiment personnaliser leur entraînement. Alors nous, dans le sport individuel, c'est encore plus, c'est encore plus marqué parce qu'au final, on entraîne en face à face, en one to one. Donc, on peut vraiment personnaliser l'entraînement. Mais j'imagine que dans les sports co, c'est un peu la même chose. C'est qu'à un moment donné, on prend pas le club de Lyon comme on prend le club de Lens. Alors, il y a forcément des choses qui reviennent. Et comme le disait Marion, il s'est forcément appuyé sur son aspect un peu stratège et sur sa tactique. Mais le management d'être humain, mais... c'est pas le même dans un club.
Non, mais c'est déterminant ce que tu disais, parce que c'est vrai que Pierre Sage, il s'est fondu dans l'environnement l'an soir. Avec les habitants, avec l'environnement du Nord.
Il ne faut pas oublier ses prédécesseurs non plus, que ce qui a été fait avant Pierre. Lens est bon à entraîner tous les deux ans. Will Steele est arrivé dans une saison où il a fallu vendre, il a fallu reconstruire. Et c'est le système Gourlian qui veut ça. Très bien, tant que les bas sont pas si bas, tout va bien. On l'a vu hier, la déclaration de Pierre Sage après le match. J'ai beaucoup de sollicitations, j'espère pouvoir honorer mon contrat. S'il y a beaucoup de ventes, ce qui devrait arriver à Lens cet été, pas sûr que le plus grand tacticien qui arrive avec un autre effectif puisse réaliser la régularité.
Il n'est pas interdit de penser que c'est un peu de com' et que Pierre Sage a accepté un salaire, qu'il y a eu un deal en
possible,
disant
Simon, écoute, possible,
moi,
mais
je te donne
je te
dis la
que
place
lance,
devant, mais
tu lances une saison sur deux, c'est plus compliqué à faire.
Il va arriver avec les reçus en disant écoute, deuxième de Ligue 1,
on n'a même pas plus de droits de télé.
Je demande pas un saladier, mais un petit effort.
On verra avec la Ligue des Champions l'année prochaine, ce sera autre chose à gérer, évidemment, Marion.
Alors, j'ai plusieurs éléments sur lesquels j'aimerais revenir. Tout d'abord, pour ce qui est du foot en tout cas, et je pense que c'est quand même d'une certaine manière la même chose pour le tennis, les grands entraîneurs, donc on peut mettre Guardiola, on peut mettre Mourinho, on pourra en citer deux ou trois autres, c'est pas eux qui s'adaptent au club, c'est l'effectif qui s'adapte à eux. Et d'ailleurs, ils font un recrutement en fonction de leur type de jeu pratiqué. Et là, pour Pierre Sage, c'est vraiment très très clair. C'est un circuit de passe, c'est beaucoup de pressing. C'est vraiment un disciple de Guardiola. Il s'est inspiré de ces méthodes-là. Là où c'est différent par rapport à Pep, c'est que Pep a une méthode de management qui est extrêmement dure, extrêmement rigide. Il y a énormément de vidéos dans les vestiaires où il regarde ses joueurs droit dans les yeux parce qu'ils ont été mauvais.
Ah, Pierre Sage est un personnage plus rond.
Voilà. Et il te les massacre.
C'est pas le même niveau d'exigence. Alors, avec les très grands joueurs que tu peux avoir.
Exactement.
À City,
mais si tu veux, non, mais quand tu vois Pep à Barcelone, quand tu vois Pep à City,
mais
il
a jamais été à Lens. Hein.
Il se comporte de la même façon. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en fait, par exemple, en tennis, nous, on avait Tony Nadal. Tony Nadal, quand il s'occupait de Rafa et que tu vas aujourd'hui dans son académie et que tu as envie de devenir joueur de tennis professionnel, il va te parler comme s'il parlait à Rafa. Après, tu es en capacité de l'intégrer.
Je ne suis pas trop d'accord là-dessus, Marion. Je trouve que dans le tennis, c'est un peu différent.
Il y a des entraîneurs qui ont envie de s'adapter, des entraîneurs où tu y vas pour un certain discours. Et soit tu es capable de l'encaisser et tu y vas, soit tu dis non, ça ne me convient pas et tu ne vas pas vers cet entraîneur-là. Mais on sait très bien qu'il y a des entraîneurs où tu dis voilà, ils ont leur méthode, comme Philippe Lucas, par exemple, en natation. Et donc, à ce moment-là, soit tu es en capacité d'avoir un groupe qui avait à réagir à ça, soit effectivement, on l'a vu à l'Olympique de Marseille, t'as ton groupe qui se fracture, t'as un moment donné où il y a des joueurs qui ne répondent pas à ça, et donc tu les perds.
Ta mission en tant que manager, c'est pas d'emmener tout le monde avec toi,
Exactement, mais du coup, là-dedans, Pierre Sage, moi je trouve, a la très bonne balance.
Il est entre les deux, exactement.
Exactement, c'est-à-dire qu'il a le côté très humain, où il est proche de son effectif, où il va arriver à avoir ce côté vraiment un petit peu papa, mais quasiment. Et cette partie, oui, il a des idées de jeu très marquées, ça prend très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que on a aussi les deux extrêmes. On a des gens, effectivement, qui vont se dire, moi, je vais m'adapter systématiquement aux joueurs ou au projet ou à l'équipe. Et puis, on en a d'autres qui se disent, non, moi, je suis désolé, c'est entre guillemets moi le meilleur. Et donc, soit vous vous adaptez à moi, soit vous vous adaptez pas. Et puis,
de la fin là-dessus, Alizé?
Non, pour moi, les entraîneurs qui imposent trop leur vision sans s'adapter au public qu'ils ont, c'est pas des entraîneurs qui sont allés tout au bout du chemin. Voilà. Et je trouve que cet équilibre dont vous parlez apparemment visiblement à propos de Pierre Sage. Pour moi, c'est l'idéal. C'est un entraîneur. Et pour moi, Philippe Lucas, je sais pas si c'est le bon exemple. Parce que, et même Tony Nadal, ça a été un très bon entraîneur, mais c'est quand même des entraîneurs qui ont un petit peu trop la main mise sur le projet de l'athlète et c'est pas forcément super sain sur le long terme.
Non, mais c'est vrai que.
Quand tu fais gagner autant, un joueur, tu peux pas dire que c'est pas un bon entraîneur. Enfin, je suis désolée, mais.
J'ai pas dit que c'était pas des bons entraîneurs. J'ai dit que c'était pas forcément.
Gagner un joueur. Voilà. Un gars capable
c'est quand même toujours mieux que zéro. Non, et c'est pas la dernière la plus saine non plus.
Tous. En fait, les amis, c'est très simple. Il n'y a pas une façon de gagner. Il y a des entraîneurs qui sont très dogmatiques, qui arrivent à fonctionner. Ce
que vient de dire Marion, c'est ce qui se rejoint, c'est que quand les meilleurs, quelle que soit la méthode, même si t'es dur, bah, c'est le meilleur. Donc il finit par gagner.
Exactement.
Moi, je suis pragmatique, je m'adapte à tout le monde.
Heureusement.
Non, toi, c'est l'école des fans. Tout le monde gagne à la fin.
Bravo. Pierre Sage et les Lensois, en tout cas, vainqueurs de la Coupe de France, on va suivre le retour des héros. Enfin, ils y sont déjà, hein, mais la fête tout au long de la journée sur RMC, évidemment.